Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Mon invité ce matin, c'est Francine Robert. Je rappelle que Francine Robert est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Alors, Francine, aujourd'hui, nous allons regarder un texte qui est un petit peu plus long que d'habitude. Il s'agit donc de la parabole du fils prodigue, qu'on a déjà appelée la parabole de l'enfant prodigue, ou encore, dans d'autres traductions, d'autres bibles, la parabole du père et ses deux fils, car l'aîné est aussi une figure importante du récit, ou encore du Père miséricordieux.
Oui, on pourrait aussi l'appeler comme ça, parce que si on se souvient que les paraboles sont des histoires qui mettent en scène des situations familières pour les gens, et qu'ensuite les paraboles font déraper le familier, font surgir l'inattendu, dans cette parabole-ci, l'inattendu, la surprise, vient au moment où le père accueille le fils prodigue. On est étonné, il l'accueille sans aucun reproche, il organise une grande fête. Et donc, si c'est là que la parabole fait déraper le familier, c'est là qu'est le punch narratif, si je puis dire. Donc, on pourrait aussi bien l'appeler la parabole du père miséricordieux. C'est un récit qui a été très commenté, Claude. Je suis sûr que nos lecteurs et nos auditeurs, pardon, et auditrices en ont lu plusieurs commentaires. Ça dit bien la richesse du récit, sa puissance d'évocation. Et c'est frustrant, on pourra pas en évoquer plus qu'une petite tranche. On fera notre possible, mais il ne faut pas cesser de lire ce récit.
Et je rappelle que vous nous proposiez donc un thème qui repose sur deux rails. Pour ce temps du carême, il y a d'un côté le chemin, puis de l'autre côté Jésus prophète. Alors, aujourd'hui, en fait, on va plus retenir le thème du chemin.
Oui, qui est non seulement le chemin de Jésus vers Jérusalem dans Luc, mais qui est aussi, je rappelle que ce sont des chapitres 9 à 19, qui est aussi le chemin de formation des disciples, donc un chemin de conversion. Alors, ce thème-là va nous permettre d'aborder d'une façon plus précise la trajectoire du fils prodigue, les étapes du chemin qu'il poursuit, qui est un chemin de retournement. Il retourne donc un chemin de conversion. Ça va bien avec la semaine dernière. C'était un récit d'appel à la conversion.
Oui, puis il bouge aussi, là. Hein. Il va quitter la maison, il va revenir.
Oui. C'est ça. Il y a beaucoup de déplacements dans ce récit. Alors, on regardera ce chemin d'un peu plus près. Cette parabole, elle est propre à Luc, comme plusieurs des paraboles de l'Évangile de Luc, et il la place dans un contexte précis, et c'est toujours important de regarder le contexte dans lequel une parabole est placée, puisque ça permet à l'évangéliste de nous donner l'orientation de la lecture. Le contexte, il est donné au début du chapitre 15, et il est aussi dans le lectionnaire, et donc on va commenter d'abord ce contexte, si vous voulez bien nous le lire, s'il vous plaît.
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole.
Oui, et il y aura là trois paraboles, celle de la brebis perdue, celle de la drachme ou de la pièce perdue et celle de l'enfant prodigue qui est la nôtre. Donc, c'est une situation familière dans les quatre évangiles, certainement aussi une pratique historique de Jésus, que cette ouverture, cet accueil à tous et à toutes, qu'on constate partout, même chez Jean, on peut penser à la Samaritaine, par exemple. Il accueille tout le monde, quel que soit leur statut social et religieux. La réaction est intéressante. Ici, la réaction des pharisiens et des scribes, ils soulignent que Jésus mange avec les publicains et les pécheurs. Le repas en monde juif, je le rappelle, est un contexte fort de communion, de communication avec l'autre, et c'est un contexte relationnel que Luc souligne plus que tous les autres. Au chapitre 14, qui précède notre parabole, il n'est question que de repas, et dans d'autres récits propres à Luc, Jésus mange avec des pharisiens aussi. On pourrait se dire que Jésus aimerait à cette table que se côtoient pharisiens, publicains, scribes, pécheurs, rassembler tout le monde, quoi. Je pense qu'il en serait aussi heureux que le père qui essaie de rassembler ses deux fils et toute sa maisonnée dans la fête à la fin de notre parabole. Mais ici, on voit que les scribes et les pharisiens refusent, non pas de fréquenter Jésus, mais refusent de s'asseoir à cette table qui leur est pourtant ouverte. Ils refusent parce que à cette table sont assis des pécheurs. Un peu comme l'aîné de la parabole va refuser d'entrer dans la fête pour le cadet. C'est avec ses amis qu'il veut fêter, l'aîné, il le dit. Je veux un chevreau pour fêter avec mes amis, avec ses semblables, pas avec l'autre trop différent. Donc, il y a un rapprochement ici qu'on pourra faire entre les scribes pharisiens d'une part et l'aîné d'autre part. Alors, Jésus va répondre à cette résistance, à ce blocage des pharisiens par les trois paraboles que j'ai mentionnées, la parabole étant, je le rappelle, une pédagogie moins frontale qu'un discours où j'argumente, je fais ça parce que, oui, mais, non, vous voyez, il n'y a pas d'argumentation, il y a des récits proposés à la réflexion.
Les publicains, on en parle maintenant?
Ah, on pourrait...
Est-ce que je vais trop vite?
Non, non. J'allais oublier ça.
Oh.
Merci. Les publicains, les pécheurs mentionnés ici.
C'est ça.
On va pas s'étendre là-dessus. Bon, les publicains sont les collecteurs d'impôts. On sait que par leur métier, ça les met en contact avec les Romains. Mais ce que je voulais surtout signaler, c'est que publicains et pécheurs représentent symboliquement des gens qu'on peut avoir des raisons de considérer comme des pécheurs, c'est-à-dire des gens à l'éthique probablement douteuse. Hein. C'est sûr que les publicains sont en position d'exploiter les gens, mais c'est pas tellement les publicains pécheurs d'hier qui m'intéressent, mais la réaction que je vois très souvent chez mes étudiants, le réflexe de voir chez les pécheurs de l'Évangile uniquement des pauvres gens marginalisés, au fond, victimes d'une société qui est trop rigide. Et là, on peut transposer vers aujourd'hui, c'est sûr que nous aussi, on fabrique des marginalisés. Il y a de ça, c'est sûr, dans les évangiles, Jésus fréquente les marginalisés. Mais c'est des pécheurs aussi. Et c'est des pécheurs responsables de leur péché. Si on escamote ça, ça nous devient un moyen facile de se protéger contre ce qu'on pourrait trouver de choquant dans l'ouverture de Jésus face aux pécheurs, dans l'accueil qu'il leur fait. C'est pas vraiment des pécheurs, c'est pas choquant qu'il les accueille. Mais je pense qu'on doit se laisser interpeller dans ce que j'appellerais la zone pharisienne en nous et se demander, moi je l'ai fait, en tout cas ce matin, je me suis demandé quels sont les gens dont la présence à la même table que Jésus me choquerait aujourd'hui. Je vous assure que j'en ai trouvé, je vous dirai pas lesquels. Je pense qu'on peut tous se poser cette question-là. Lesquels nous mettraient en position du scribe qui critique Jésus de les fréquenter? C'est nos pécheurs, ça. Alors, donc, le chemin de conversion dans la parabole, on lira pas tout le texte, mais on va simplement rappeler les éléments au fur et à mesure qu'on progressera sur le chemin de conversion.
Donc, ça ouvre ainsi, hein? Un homme avait deux fils. Bon, le plus jeune dit à son père, « Donne-moi donc la part d'héritage qui me revient. » Le père fait ce que le fils lui demande, et peu de jours après, bien le jeune rassemble tous ses biens, et puis il part dans un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.
Oui. Je vous fais tout de suite remarquer que le vocabulaire péjoratif dans cette introduction à la parabole, il n'arrive qu'à la fin. Gaspiller sa fortune en menant une vie de désordre. Donc, décider de demander l'héritage n'est pas blâmé par le récit. Décider de partir n'est pas blâmé par le récit non plus.
Autrement dit, chez les Juifs, on peut un enfant peut demander du vivant de
en
son
cas,
père.
En tout cas, c'était prévu dans la juridiction. C'est vrai aussi dans le monde grec. Ça n'est pas fréquent. Le père en question pourrait ne pas la trouver drôle, mais ça présente pas le même genre de problème que nous, on soupçonnerait tout de suite, je vais me débarrasser de mes parents.
Okay.
Le
problème n'est pas là.
Non, puis le narrateur le place pas là, le vocabulaire péjoratif, c'est ce qu'il fait avec cette fortune. Okay. On sait pas pourquoi le fils décide de partir, bon, vivre sa vie, voir du pays, ça n'est pas blâmé non plus. Mais il vit de ses biens en les utilisant mal, finalement, c'est-à-dire en les perdant alors qu'on les lui a donnés. Et ce qu'on traduit par une vie de désordre, Le mot qui est là, j'ai été étonné, c'est le mot grec, c'est asotos. Sotos, ça fait partie du vocabulaire du salut que Luc aime particulièrement. Et donc, c'est vivre hors du salut ou hors de ce qui sauve. Ce qui est intéressant, ça qualifie le chemin que le jeune prend. Enfin, il se met en danger de perdre ce qui le sauve.
Alors, et on continue?
Oui, allons-y.
Donc, ensuite, on devient le chemin du manque. Hein?
Oui.
Une grande famine survint dans cette région où il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher, garder les porcs.
C'est ça. Son employeur le fait garder des porcs. Et donc, cette étape du chemin qui est moins drôle que la première, comme vous disiez, une étape du manque, il participe à la misère locale, la famine frappe tout le monde, mais ça va le conduire vers un manque encore plus grand, donc à une étape suivante, c'est-à-dire que gardant les porcs, il se retrouve en train de périr de faim. Périr, qui est notre même mot que la semaine dernière, là. Vous périrez ainsi si vous ne vous convertissez pas. Donc, il crève de faim au point d'envier même ce que les porcs mangent. Donc, dans cette nouvelle étape du chemin, qui est un chemin vers le bas, hein, finalement, c'est-à-dire que ça descend toujours, son statut descend, c'est aussi un manque au niveau religieux. Je vous rappelle que quelqu'un qui construit une parabole, il peut bien mettre ce qu'il veut dedans, c'est une histoire inventée. Il aurait pu être embauché pour garder des chevaux ou des moutons. Garder des porcs, ça rend ce garçon impur selon la foi juive, qui est la sienne, et donc inapte à s'approcher de Dieu. Il se retrouve aussi en exil religieux. Ça renforce encore plus l'idée de l'éloignement. Il devient un loin de Dieu, quoi.
Et le manque le conduit sur un chemin intérieur.
Oui.
Alors, il réfléchit. Hein?
Oui.
On va le commenter, ce mot-là. Hein?
Oui.
Il entra en lui-même. Hein?
Oui, c'est comme ça que c'est traduit d'ailleurs habituellement. Et dans le grec, c'est vraiment un verbe pour aller ou entrer. C'est aller. Et les mots sont là pour en lui-même. Je suis étonné un petit ici que le lexique est traduit par réfléchir.
Donc, le lectionnaire.
Le lectionnaire, c'est vrai. Pardon.
Le lectionnaire, c'est étonnant que le lectionnaire est traduit par le verbe réfléchir,
oui,
alors qu'en grec, erkomai, c'est vraiment il alla.
Aller ou venir, c'est vraiment un verbe de déplacement que la plupart des bibles traduisent ici par il rentra en lui-même pour garder l'idée de déplacement. Alors, entrant en lui-même, donc sur un chemin qui est cette fois-ci intérieur, il commence par regarder le point de départ du chemin parcouru, et donc là où il était chez son père, et il le voit sous un angle nouveau à partir de sa propre expérience d'employé. Il s'aperçoit que son père est un bon employeur, ses employés sont bien traités et ils ont du pain en abondance, contrairement à lui. Il regarde aussi le chemin qu'il a parcouru, et il en tire une conclusion, j'ai fait ce chemin-là, donc je ne peux plus retourner à mon point de départ. Mon point de départ, c'était être fils dans la maison de mon père. Le fils qui réfléchit se prépare à dire à son père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Donc, il retournera au point de départ géographique, ça, il l'envisage, mais pas au même point de départ relationnel. Non, je peux pas être ton fils, je vais être un ouvrier. Deux remarques ici. D'abord, on voit que ça veut dire qu'il voit son père comme un employeur.
Ah ben oui, il le perçoit comme un employeur.
Tout à fait, un bon employeur. Ce qui correspond bien à la réaction de l'aîné un peu plus loin, qui voit aussi son père comme un employeur. Mais la deuxième remarque, je la trouve plus importante, faut insister sur le fait que le retour du fils est motivé par le manque, hein. C'est-à-dire la conscience de périr de misère.
C'est ça. Moi, ici, je meurs de faim. Hein?
Oui.
Je vais retourner chez mon père.
Je vais retourner chez mon père.
Il n'est pas motivé par le repentir.
C'est ça. C'est pas moi, j'ai fait de la peine à mon père. Je vais revenir puis je vais lui demander pardon. C'est clair qu'il se prépare à le faire. Mais il se dit pas, c'est dommage, j'aurais pas dû lui faire ça. C'est un bon gars. Vous voyez, il n'y a rien de ça dans le récit. On parle pas de sa tristesse, de son remords. Je veux pas dire qu'il n'a pas du tout de repentir. Je veux simplement dire que le récit ne le dit pas. Lorsqu'il dit « j'ai conscience d'avoir péché », il se dit ça en étant en train de préparer ce qu'il va dire à son père. Il ne se dit pas ça à lui-même. Donc, on doit faire attention à ne pas surévaluer le repentir.
Et c'est encore le chemin. Il partit donc pour aller vers son Père.
Voilà, c'est la dernière étape du chemin de conversion. Conversion qui veut dire retournement, donc le Fils retourne. Et une fois ce chemin de retour terminé, il commence le petit discours qu'il a préparé sur le fait qu'il a péché contre le ciel et contre son Père. Ce qui peut-être étonne et qu'on ne remarque pas assez souvent, c'est que la suite du récit ne nous dira rien de plus sur le cadet. Aucune mention de son émotion devant l'accueil que le Père lui fait, aucune mention de son étonnement. Est-ce qu'il a compris mieux son Père? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a développé une plus grande qualité de repentir, je dirais? On dit même pas « et le Fils se repentit ». En voyant la réaction du Père. Ça me frappe, moi, de voir comment le récit ne s'y intéresse pas. Pour un récit qui raconte si longuement un chemin de péché et de conversion, c'est surprenant qu'il laisse cette conversion inachevée. Puis moi, je pense que le non-dit doit nous dire quelque chose, et j'y reviendrai à ce non-dit.
Oui, et le lecteur est sûrement, bon, interpellé.
Oui, on devrait en tout cas.
Oui, et le regard du lecteur, donc, vous introduisez ce qui suit, là, c'est que le regard du lecteur est attiré vers la figure du Père.
C'est ça.
Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Oui.
Imaginez.
Donc, beaucoup de précision sur la réaction du Père. Il le voit de loin, donc il guette, il attend, il espère le retour. Il est pris de compassion ou de pitié. Le mot qui est là, splagnidioma, il est pris aux entrailles. Il est pris au ventre, ça lui fait mal au ventre. Un mot que Luc utilise avec parcimonie dans des endroits précis, c'est la réaction viscérale du Samaritain qui voit le blessé sur la route au chapitre 10. C'est une parabole. C'est Jésus bouleversé en voyant le drame de la veuve de Naïm qui enterre son fils unique. Donc, c'est utilisé avec soin. Et chez Luc, curieusement, ce verbe qui est très émotionnel, il l'applique aussi à Dieu. Enfin, pas le verbe, mais le nom de la même famille. Dans le cantique de Zacharie, j'aimerais bien que vous nous lisiez ces deux versets.
Versets 77 et 78 du premier chapitre, là, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu.
Oui, donc vous voyez, les entrailles qui sont là, c'est de la même famille que le Père qui est pris aux entrailles bouleversé. Ça fait des mots-clés appliqués à Dieu à propos des thèmes du salut et du pardon. On est en plein dans l'horizon de notre parabole. Ces deux versets sont mis en scène, sont mis en récit, finalement, dans la réaction du Père. Donc, c'est une réaction émotionnelle devant la détresse du fils et le malheur du fils. Le Père court, ça fait pas très digne, pour surtout dans l'Antiquité, pour un homme d'un certain âge.
C'est vrai, hein?
Avec un statut social, quand même.
On imagine...
Il relève sa robe puis il se met à courir, là. C'est quand même... Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est que il fait en courant la partie du chemin qui reste entre son fils et lui. Et c'est au fils à faire ce chemin-là. Et si on reprend le sens symbolique du chemin comme étant un chemin de conversion, c'est comme si le Père comble ce qui manque à la conversion du fils. Le fils n'a pas un repentir haut de gamme, dirions-nous. C'est pas une conversion parfaite et achevée. Mais le Père, qui est représenté comme faisant une partie du chemin, il me semble, peut bien symboliser le désir de Dieu face à nous, qui désire tellement que nous le retrouvions, qu'on soit en relation avec lui. Quelle que soit la qualité qu'on peut investir dans cette relation-là, il fait sa part, finalement, du chemin pour rétablir cette relation, de sorte que la vie devient à nouveau possible, comme le dit bien le Père pour son fils.
En disant ceci, mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, donc mangeons et festoyons, dit le Père.
OK, oui, excusez-moi.
Donc, vous avez été distrait par le temps.
J'ai été distraite, oui, j'essayais de voir combien de temps il y a.
Il nous reste mettons 5 minutes.
C'est bon, merci. Alors, Dieu, pourrait-on dire, Dieu a le cœur à la fête? Ça nous rapprocherait des deux paraboles qui précèdent. Il y a de la joie dans le ciel, ou chez les anges de Dieu, pour un pécheur qui se convertit. Ce Père déraisonnable est censé représenter Dieu et représenter aussi la justification que Jésus donne de son propre accueil des pécheurs. Quand je dis déraisonnable, c'est qu'il tue le veau gras. Et c'est un acte de luxe, hein. Ça fait un repas luxueux, la viande, c'est pas au menu tous les jours. Donc ça dit bien que la réaction du père déborde de tendresse, déborde de joie, déborde de générosité. Il est complètement emporté par son propre mouvement, si bien que peu importe le chemin de conversion pas terminé, allez, on y va. Je vais juste signaler que la robe, l'anneau, les sandales... manifeste bien que l'identité du fils est complètement restaurée par le père, même si nous, comme le frère, on aurait peut-être hésité à le réintégrer tout de suite comme fils, on aurait peut-être posé quelques conditions, on serait peut-être au moins assuré qu'il y a un repentir sincère et entier,
bien.
N'est-ce pas?
Et venons-en justement au fils aîné, hein, oui. Qui est à la suite du récit. Montre que le début du chapitre montrait déjà, c'est-à-dire une attitude aimante et accueillante de Dieu, ça plaît pas à tout le monde.
Voilà, l'aîné se retrouve un peu dans le rôle ou comme figurant des pharisiens, des scribes. Voilà, les gens sont rassemblés à la même table et à la même fête. Lui reste dehors, comme nos pharisiens scribes du début.
Et il marque une distance par rapport à son frère, hein? Quand
absolument.
Ton fils, que
oui,
voilà,
est
arrivé.
C'est ça. Quand il parle à son père, il parle pas de son frère, mais de ton fils. Alors, on voit que l'aîné aussi a finalement du chemin à faire. C'est son propre chemin de conversion qu'il doit faire, c'est pas celui de son frère. Il est en chemin, je vous ferai remarquer, je l'utilise au niveau symbolique, mais déjà, physiquement, il est présenté comme en chemin, revenant du travail, mais on dirait que ce vers quoi il marche, c'est le monde du travail, c'est son père comme employeur, son père à qui il dit, il y a tellement d'années que je suis à ton service, j'ai jamais désobéi à tes ordres, ça fait patron-employé, hein? Comme le cadet d'ailleurs, qui s'attend à ce que son père soit un bon employeur. Et comme le cadet, il ne marchera pas jusque dans la maison familiale. Le fils cadet l'a pas fait parce que le père a fait un bout du chemin. Lui, c'est parce qu'il est en colère et il refuse d'entrer. Donc, son chemin est interrompu vers le père, de sorte que, comme pour le cadet, le père va faire lui-même le bout de chemin qui manque. C'est-à-dire, va sortir vers l'aîné qui est arrêté, qui est bloqué là, et le verbe est fort, va le supplier d'entrer. Donc, le père va rappeler au fils que leur relation, elle est de l'ordre de la filiation, de l'ordre du partage.
« Toi, mon enfant, hein, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. »
C'est ça, et donc, viens fêter, entre dans ma joie, dit le père, entre dans ma compassion. Cette si belle finale de la parabole, je vous laisse la lire.
« Il fallait bien festoyer, se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. »
Voilà. Et je me dis que peut-être bien que si l'aîné rentre pas, c'est-à-dire n'achève pas son chemin de conversion, la fête du père va être gâtée un peu. Alors, si on se ramène au début, je pense que Jésus avec les pécheurs, il est heureux d'être là, mais peut-être qu'il sera encore plus heureux si tout le monde pouvait se mettre à table ensemble. Ce qui est intéressant aussi pour nous comme lecteurs, c'est que le récit nous renvoie à nous-mêmes, hein, puisque on n'a pas plus la suite du chemin pour l'aîné que pour le cadet. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment leur cœur va être touché. Hein. Leur chemin de conversion reste là, une patte en l'air. Et pour les deux, c'est bien la même conversion, même si elle n'a pas passé par le même chemin. C'est-à-dire changer leur image du Père juste, ou en transposant du Dieu qui récompense et punit froidement, ou encore, pour la semaine passée, du maître qui est justifié de couper le figuier stérile, changer cette image-là, la convertir en la découverte de l'image du Père ou de Dieu qui est aimant, qui est bouleversé par notre malheur, qui désire qu'on vive en relation avec lui, qui est prêt à nous accueillir comme nous sommes, et qui est prêt, même comme pour le figuier, à faire une part du chemin ou du travail pour nous faciliter les choses et nous faire porter du fruit.
Et ça reste ouvert, de sorte que le lecteur ou l'auditeur, eh bien, a à se positionner,
oui,
on peut dire.
Lui aussi.
Bien. Merci, Francine Robert. Je rappelle, Francine Robert, donc, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. À la technique, Nicolas Chouskin. Au microphone, Claude Julien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.